Sans contrôle, le podcast 100% excellent.
Loco Pelleros, Pelleros Loco, c'est fabuleux.
Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels.
Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
Autour de la table... Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Pierre Arnaud Barre, Presse Océan.
Ouais.
David Philippot, Ouest France. Un podcast présenté par Simon Ronboit, Eat West.
Salut les amis, salut David Philippot.
Salut.
Il avait les yeux rougis, le David, au moment où Mbappé a marqué son péno à la Beaujoire. Les larmes du
footix
qui coulent sur la joue quand t'as compris que tu ne reverrais plus jamais Kiki à la Beaujoire.
Ah oui, c'était peut-être la dernière fois.
Ouais. Vous avez le même melon. J'ai essayé de faire des comparaisons. Salut Pierre Arnaud Barre.
Bonjour Simon, bonjour tout le monde.
Pape qui a cassé lui deux fois son ordi samedi dernier à cause de Palois. But magistral incroyable. Refusé en première mi-temps et la frappe de 90 mètres en deuxième.
Mais quel autre joueur? Bah Kiki, j'ai jamais vu faire ça. Hein,
non, jamais.
Bah, Nico, lui, tranquille, 35 mètres de demi-volée, paf, sous la barre. Extraordinaire. Ouais, quel joueur.
C'est autre chose. Salut
et
Jean.
Et en plus, il se marre.
Salut Jean-Marcel Boudard.
Salut tout le monde.
Boudard, c'est le Gerd Müller de la presse nantaise, aurait dit Valdemar à la Beaujoire dans l'éloge.
C'est pas un compliment.
T'apprécies, j'imagine.
Comment va l'OM?
Ouais, ça va.
Ça se passe bien, Marseille?
Bah écoute, j'ai trouvé plus déprimant que le FC Nantes. Donc,
ah oui, quand même.
Ouais. La résidence Les Sépias a perdu deux pensionnaires qui sont désormais sur le banc de l'OM. Merci Jean-Marcel. Allez, salut à toi. Le fan des Canaries qui nous écoute.
Love Balance.
Nena, Nina.
Nena, on l'a déjà passé. On l'a déjà passé il y a quelques semaines.
J'adore cette chanson en plus.
Tu as dit là, vous avez l'artiste ou pas?
Nena.
Il a dit Nena.
Par contre, on peut pas chanter. Hein.
Ça m'ambiance avant l'Euro.
Moi, je chante Aventura.
C'était dans la thématique Gerd Müller, évidemment. Il faudra une efficacité à la demande hein, dans les prochains matchs pour le FC Nantes. C'est au menu de ce 27e épisode, saison 5 de Sans Contrôle. On va commencer avec un focus sur des hommes qui ont fait parler d'eux lors du match face à Paris. Nicolas Cozza, ça vous a plu ou pas? On décortique sa première titu. On va se demander si Duverne va faire banquette désormais. Nico Palois s'installe-t-il à nouveau, lui, dans le 11 de départ à la place de Tchemert? Qu'arrive-t-il à Florent Mollet, à nouveau écarté? Et à Bamba, fin de l'histoire pour lui ou pas? Plus globalement, débrief de cette défaite face à Paris, le FCN a-t-il parfaitement défendu et peut avoir des regrets sur les occasions manquées en contre? Ou au contraire, Gourvennec a-t-il été trop frileux offensivement pour espérer mieux? Un coach qui va devoir trancher hein, l'effectif est quasi au complet désormais. Est-ce qu'il faut privilégier une défense à 5? Quels attaquants mettre sur le banc? Au milieu, quel choix également? Enfin, la pression monte pour le désormais barragiste nantais avant d'affronter Lorient et Metz. Coup de fil, justement, tiens, un confrère lorientais avant le match au Moustoir. Un mot également sur la sortie médiatique et sur les réseaux sociaux de Pierre Aristo. Il y a les messieurs, on le sait, on n'aura jamais une saison tranquille avec ce FC Nantes qui voit la zone rouge se rapprocher et qui aimerait au minimum passer au orange.
Hey, oh. Faites pas la gueule, vous êtes contents quand même, non?
Hey, oh, let's go.
Sans contrôle.
L'actu des Canaries a une touche de balle.
Cozza ou Duverne, Palois ou Tchemert, Mollet et Bamba.
Get back.
Bien sûr, bravo Pape.
Ouais, c'est lui qui a vu les réponses tout à l'heure.
J'ai une culture, c'est tout.
Oui, c'est ça.
Les Beatles, Get Back, en présence de notre conseillère musicale et exceptionnellement dans le studio aujourd'hui. He's back, hein, Nicolas Palois. Mais avant de parler du chouchou de la Beaujoire, commençons par la première titularisation de Nicolas Cozza. Est-ce qu'elle vous a convaincu ou pas? David, Nico Cozza.
Oui, mais en même temps, c'était pas compliqué de passer après Duverne. Donc oui, j'ai trouvé plutôt solide. Il a même failli marquer. Ça s'est joué à un crampon. Parce qu'en plus, il avait des clients. Donc pour une première, c'était pas simple. Il avait très peu joué depuis le début de saison en Allemagne. Donc une première, il a tenu son rang, comme dit Gourvennec.
Il était dans une défense à 5, donc sur le côté gauche, hein, pour ceux qui n'ont pas vu le match. Pab.
Oui, je l'ai trouvé intéressant. J'ai trouvé qu'il a... Il a aussi aidé à sécuriser l'axe. Moi, ce que je reprochais à Jean-Kevin Duverne, c'est qu'il mettait en difficulté quelque part Zézé ou Palois à côté de lui. Et là, là, je l'ai trouvé beaucoup plus solide. On n'a pas vu particulièrement Lee, pendant qui était sur son côté, le Parisien. Donc moi, j'ai trouvé plutôt solide.
Il va être sécurisant, ce que n'était pas Quentin Merlin associé à Nicolas Pallois. Alors, on l'avait dit ces derniers mois. Jean-Marcel.
Ouais, j'attends confirmation quand même, parce que moi, je l'ai trouvé sur la première période un peu emprunté, notamment...
Moi aussi un peu. Ouais, je suis pas aussi optimiste que nos deux amis.
Dans ses déplacements, dans la lecture du jeu, dans les relances sous pression, où j'ai trouvé qu'il a affiché certaines limites. Il a perdu beaucoup de ballons également. Après, il a fini cramé, donc je pense que physiquement, il a encore quand même des marges de progression. Dans les points positifs, je vais rejoindre ce que disaient les collègues. C'est vrai que dans les duels, il a plutôt été sérieux et solide, parce que même malgré sa fin de match où il a fini un peu sur les rotules, notamment il avait un sacré client avec Ousmane Dembélé qui venait de rentrer, et j'ai trouvé en tous les cas qu'il n'a pas plongé. Il aurait pu sombrer, il n'a pas plongé. Donc ça,
il va avoir besoin de rythme. Hein. Il nous l'a dit, Nicolas Cozza, en zone mixte. Écoutez-le.
Ça faisait un moment que j'avais pas joué. C'est sûr que le rythme est dur à retrouver. Je pense qu'avec l'enchaînement des matchs, je vais me sentir de mieux en mieux.
Et t'avais des clients en face.
Et j'avais des clients en face. Aussi.
Tu es plus à l'aise à 5 dans un couloir ou à 4? Quelles sont tes habitudes, tes préférences?
Non, moi je m'adapte, il n'y a aucun problème. Je peux jouer dans l'axe, à 4 sur le côté gauche ou à 5 pistons, c'est pas un problème pour moi.
À 4 ou à 5 en tant que piston, ça lui pose pas de problème, Pab.
Après, moi j'attends de le revoir, comme disait Jean-Marcel, avec une autre adversité, parce qu'on sait que les matchs...
Il a quand même Dembélé et Lee.
Là, pour le coup, il y a eu l'adversité.
Ce que je veux dire, c'est dans une autre configuration.
Avec une équipe qui défend. À Paris, on
sait que dans la saison, c'est un match, Gourvenec l'a dit lui-même, c'est un match qui est toujours à part dans la saison. Tu joues pas de la même façon, tu défends pas de la même façon,
Tu n'attaques pas de la même façon.
Exactement.
Non plus, donc on va voir ce qu'il peut apporter offensivement.
Après, j'ai trouvé qu'offensivement, il allait assez vite. J'étais assez étonné de sa pointe de vitesse et du débordement qu'il a fait côté gauche, notamment sur son action, ce qu'on ne voit pas du tout avec Duverne, par exemple. Offensivement, je pense qu'il va porter un peu plus.
Ah oui, d'ailleurs, pour ceux qui ont salué l'avant-match de Jean-Kévin Duverne, impeccable au micro pour interpréter One Love de Bob Marley, c'était Tété, hein. C'était pas Jean-Kévin Duverne.
J'adore ton humour.
Qu'est-ce qu'il est drôle.
Précision importante. Blague à part, Duverne, est-ce qu'il est la vocation, il est désormais à faire banquette?
Avec les blessures, les suspensions, on peut le revoir. Il n'y a personne d'autre à gauche, hein, à part donc Cozza et lui. Hein, donc, parce que Mepiou, même si c'est pas un latéral gauche, mais bon, Mepiou n'est pas prêt de revenir. Après, il a déjà fait la prépa, mais c'est pas un latéral gauche.
Je sais pas pourquoi Bastien Mepiou revient encore dans les conversations, puisque.
Parce que David en parle.
Non, mais parce que j'en parle et parce qu'il a joué cet été au poste de latéral gauche.
Oui, d'accord, mais il est out normalement pour mi-avril, enfin jusqu'à la mi-avril.
Mais tu m'as pas laissé finir.
Oui,
il est
out. Donc il va reprendre. Il restera combien de matchs après la mi-avril si on fait un point calendrier avec Pab? Il va rester 4-5 matchs.
Oui, donc c'est pour ça. Non, mais j'étais en train de dire justement qu'il y avait quasiment personne à gauche, donc il suffit que Cozza se pète, on a vu qu'Amiens s'est blessé très peu de temps après son arrivée. Duverne, on peut encore le revoir. Ça, c'est clair.
Ça dépend aussi du coaching de Jocelyn Gourvenec. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Et si, admettons que Cozza se déchire un moment à Lorient, par exemple, tu peux relancer Duverne. Ça, la saison est encore longue.
Oui, la saison est longue, mais clairement, il y a une hiérarchie qui semble s'installer. Un Cozza, deux Duverne, qui prend place sur le banc pour l'instant. Dans l'axe, Nicolas Pallois enchaîne une deuxième titularisation avec un gros match. Est-ce qu'il s'installe à nouveau dans le 11 de départ? Écoutez, Nico Pallois, il a une phrase quand même plutôt sympa en zone mixte.
Ouais, j'enchaîne. Tout le monde a cru que c'était fini pour moi. Et Pallois, il est encore là, donc non, il faut continuer à travailler. Je suis là pour l'équipe.
Alors, c'est pas le faut continuer à travailler.
Et il t'a regardé, t'a fait un clin d'œil quand il a dit ça.
Il est quand même super, il parle de lui à la troisième personne.
Il est là, Pallois.
C'est
vrai
Alain
qu'il
Delon
est là. Mais on l'a enterré.
Matchs,
on l'a tous enterré.
Après, on l'a tous enterré. Il y en a un qui l'a jamais enterré, c'est moi. Et vous vous foutez bien de gueule.
Après, il était vraiment dans son élément. Samedi face au Paris Saint-Germain dans une défense à 5,
un grand match,
dans l'axe de la défense avec il avait 10-15 mètres de recul, il était là pour mettre sa tête, pour mettre ses pieds et pour intervenir.
C'est un des meilleurs
il est très bon là-dessus très très bon même,
mais ouais. Il avait déjà été bon à Toulouse
pareil,
il avait été très bon à Lille aussi lorsqu'il était rentré deuxième match de la saison, c'est pareil, bloc très très bas.
Donc c'est une vraie option pour Gourvenec. Ma question était de savoir s'il s'installait dans le 11, pas vraiment finalement. On écoute Gourvenec en parler.
C'est un joueur stable, c'est un joueur fiable. Quand on est entraîneur, on veut des joueurs fiables. Il n'a pas tout le temps joué, mais quand on a fait appel à lui, y compris quand il était sur le banc et qu'il rentrait, il a toujours eu un état d'esprit remarquable. Il jouera peut-être pas tous les matchs jusqu'à la fin de saison, mais on sait très bien que c'est un joueur sur lequel on peut compter. C'est un joueur expérimenté, mais il a toujours sa fraîcheur. Son parcours est assez très atypique parce qu'il était menuisier avant de basculer complètement dans le foot. Il a ça en lui, je pense qu'il sait d'où il vient. De ce point de vue-là, c'est un bon exemple pour les jeunes.
Un bon exemple pour les jeunes, mais il ne jouera peut-être pas tous les matchs d'ici la fin de saison. Il a mis un petit bémol.
Oui.
Non, mais ce qui est marrant, c'est que en fait, ton thème, c'est le retour de Nicolas Pallois, mais il a toujours été là, hein, finalement.
L'éternel retour.
Il joue 15 matchs sur 22.
Il a été un peu à la cave sur Aristouille.
Mais finalement, il a rejoué. Là, mais il était aussi à la cave quand Gourvennec est arrivé. Sauf qu'en fait, t'as Chemert qui se pète après une demi-heure à Reims, qui rentre Nicolas Pallois. T'as Amiens qui se pète après 10 minutes contre Lens, qui rentre Nicolas Pallois. Et en fait, tu fais ce match tranquillou. Hein.
Ouais,
il est exceptionnel.
Il a gagné en crédit pour moi après ces deux prestations.
Il a jamais perdu de crédit.
Sauf que si tu passes.
La question, c'est Chemert. Qu'est-ce que tu fais de Chemert ? Est-ce que Pallois, tu te dis, il est passé devant Chemert sur l'état de forme ?
Faut se rappeler.
Chemert était sur le banc, c'est pour ça que je dis ça.
La période Aristouille où quand Pierre Aristouille le relance face à Reims, où il fait un très bon match à domicile, malgré la défaite. Derrière, il sombre, je crois, c'est à Metz. Donc la différence, c'est
dans le dos.
Exactement, la différence, c'est qu'il a enchaîné face à, comme dit, dans des circonstances quand même qui lui sont très favorables, à savoir bloc bas, défense à 5. Donc dans une autre configuration, face à une adversité, on va dire, qui ressemble plus à celle du FC Nantes, j'attends de voir.
Gourvennec pourra s'adapter.
Et Jocelyn Gourvennec, d'ailleurs, ne lui a pas donné non plus un blanc-seing et une garantie pour jouer titulaire toute la saison.
Sur cette question, il y a la hiérarchie PAB.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en tous les cas, par rapport, il est dans la rotation. C'est un joueur, en tous les cas, qui avait peut-être du mal en début de saison à s'imaginer une autre chose qu'une place de titulaire et qui l'a accepté, en tous les cas, son statut peut-être plus fragilisé. Et en tous les cas, il démontre quelque chose.
Il faut rappeler que cet été, Aristouille, je crois, lui avait dit qu'il serait, il avait plutôt mal vécu le fait qu'Aristouille lui dise plus ou moins qu'il serait.
Il comptait pas sur lui.
Mais je crois qu'ils
l'ont incité à quitter le FC Nantes, à trouver une autre solution.
Et même quand il joue contre Reims, il avait mis un taquet à Aristouille en zone mixte après le match en disant qu'il avait fait un bon match après contre Monaco, troisième journée, qu'après il était complètement sorti de l'équipe jusqu'à Reims et il comprenait pas son déclassement.
Je reviens à ma question sur la hiérarchie parce que les choses vont vite quand même. Projetez-vous quelques semaines en arrière. On se dit que Zézé est passé devant Chemert, là, que Pallois est peut-être avec Chemert et qu'en tout cas, ils sont peut-être même sur un pied d'égalité, tous. Alors que Chemert, il y a quelques semaines, c'était le taulier dans cette défense.
Le taulier vu des coachs.
Bah ouais, mais le taulier. Pardon ?
C'était le taulier vu par les coachs.
Vu, oui, voilà. Mais sur le terrain, c'était pas vraiment un taulier.
On a toujours mis quelques doutes. Dans tous les cas, il a jamais.
Mais la hiérarchie est en train de changer, j'ai l'impression.
Ce que disait Jean-Marcel.
Il est mis en concurrence avec Zézé. Bah, Zézé a l'air d'être passé devant.
Pour moi, Zézé, il est. Enfin, il est intouchable.
Pour moi, il est
intouchable. En plus, c'est l'avenir du club. Il a 18 ans. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher sur ses prestations. Je vois pas comment Gourvennec va toucher à Zézé.
Écoutez Gourvennec sur Zézé. Je te donne la parole après.
Nathan est un joueur qui apprend très vite, qui intègre tout très vite. C'est assez rare de le faire aussi bien quand on est très jeune comme ça. Ça fait de lui un joueur qui finalement, du haut de ses 18 ans, joue presque comme un vieux briscard.
Non mais il a tout dit, Gourvennec, et comme dit David, oui, pour moi il s'est installé dans la défense. Pour moi il y a deux indiscutables, c'est Castelletto et Zézé.
Désormais.
Voilà, et comme disait Jean-Marcel tout à l'heure, je pense qu'après ça dépend de la configuration du match. Si tu joues effectivement avec un bloc plutôt bas, comme lors des deux derniers matchs à Toulouse et contre Paris, Nicolas Pallois semble plus indiqué parce que dès que le bloc est bas, côté dans une défense renforcée, pour moi, il est intouchable. Si tu veux aller chercher, si tu veux faire du jeu et défendre un peu plus haut, ce que voulait faire Pierre Aristouille, de toute façon, c'est pour ça qu'il avait sorti Nicolas Pallois, c'est qu'il voulait une défense qui allait chercher plus haut. Et là, Nicolas Pallois se retrouve plus en difficulté.
On s'intéresse maintenant à Florent Mollet, les amis. David, Florent Mollet à nouveau écarté, même pas sur la feuille de match. Les explications de Jocelyn Gourvennec, vous allez me dire si vous êtes convaincu ou pas, et on en parle après.
Qu'est-ce qu'il faut qu'on en comprenne, c'est que j'ai un groupe à gérer, tout le monde a des devoirs, qu'on soit jeune ou expérimenté, que j'ai un collectif à gérer, une équipe à gérer, un discours auprès de vous, j'ai un discours en interne aussi, qui est souvent le même, d'exigence, d'envie, d'esprit collectif, et donc je gère mon groupe encore plus là avec les retours de Cannes, où j'ai des choix à faire. Voilà, parfois il y a des choix qui sont plus difficiles pour certains. C'est le cas pour Flo parce qu'il avait beaucoup joué depuis le début de saison. Mais voilà, sur ce que j'ai vu de son investissement dans la semaine, il a été bien. Voilà, il faut qu'il continue comme il fait.
Il faut qu'il continue à travailler. On s'était dit, Toulouse, épiphénomène ou pas, pour Florent Mollet, qui était passé de titulaire face à Lens, à même pas sur la feuille de match, écarté Toulouse. Là, c'est la deuxième fois. Il était à nouveau en dehors de la feuille de match face au Paris Saint-Germain.
Je vous ai tout dit la semaine dernière, personne n'a voulu me croire.
Alors vas-y.
Bah non, mais je vous ai dit que ça ressemblait à une sanction et c'était visiblement une sanction. Parce que Florent Mollet, c'est dans sa nature, ça lui arrive de faire la gueule et c'est un peu contagieux pour le groupe.
Il l'avait déjà fait dans la saison, sauf qu'avec Gourvennec,
ouais,
ça ne passe pas.
Sauf qu'avec Gourvennec, ça n'est pas passé. D'ailleurs, Gourvennec, je crois que la direction, Philippe Mao, lui ont demandé, Mao et la direction, de resserrer un peu les boulons depuis 15 jours.
En termes d'autorité, pas qu'avec Mollet, avec tout le groupe.
Exactement, notamment sur les retards également. Et là, je ne parle pas de Mollet, qui n'est jamais en retard, il n'y a pas de souci là-dessus, sauf que Mollet a eu un comportement avant le match de Toulouse visiblement exécrable. Alors jamais le mot sanction n'a été prononcé par Jocelyn Gourvennec, mais quand il parle de devoir pour les joueurs expérimentés ou moins expérimentés, on comprend ce qu'il veut dire. Voilà, tout simplement.
Est-ce que quand quelqu'un est chafouin dans le podcast, il est écarté pour le podcast d'après?
Il me semble que Jean-Marcel Boudard a été écarté plusieurs semaines.
J'en ai fait les frais.
Donc c'est la même règle.
Ça me paraît
logique.
Et là, je le trouve.
Mais c'était pas une sanction.
Et ça lui a fait un. C'est plus le même, hein. C'est plus le même.
Il a beaucoup travaillé
sur lui.
Il est un peu trop zen, je trouve, maintenant. Il écoute du TT. Enfin, c'est vraiment un homme différent.
Quand même, au-delà, pour moi, ça interpelle quand même cette situation-là, parce que on parle d'un joueur qui était titulaire à chaque match depuis l'arrivée de Gourvennec, même avant avec Pierre Estoul, même s'il était avec Pierre Estoul, il avait fait quelques passages sur le banc, mais avec Gourvennec, il avait joué titulaire 90 minutes tous les matchs, hormis Lens où il sort à 78e.
Donc c'est violent, quoi. C'est ce que tu veux dire.
Il passe de titulaire et à jouer tous les matchs, à être même un homme de base. On en a suffisamment parlé ici en disant est-ce qu'il n'est pas trop justement la pierre angulaire de cette équipe, à avoir trop de ballons, le principal atout offensif. Et là, il n'est même pas dans le groupe.
Mais on
même
louait
pas
son jeu entre les lignes, le bazar qu'il mettait dans les lignes défensives adverses sous Pierre Aristou.
T'as dit pierre angulaire, c'est Pierre Aristou.
Excellent.
Excellent, très bien. Excellent.
Tu peux mettre des rires à B Productions.
Vous vous souvenez de... Ah oui, je les ai.
Vas-y.
Merci. Vous vous souvenez de ce qu'on disait de... Florent Mollet, qui mettait le bazar dans les défenses adverses, il jouait entre les lignes.
Son pressing.
Ça a terminé, quoi.
Après, je pense qu'il avait plus
de liberté aussi sous Pierre Aristouille qu'il n'en a avec Jocelyn Gourvennec. Parce que sur Jocelyn Gourvennec, on sent quand même que, notamment sur ses derniers matchs en janvier, il était excentré très très à droite et collé quand même près de la ligne de touche avec sans doute moins de possibilités de repiquer dans l'axe ou voire même d'aller permuter à gauche. Je pense que ça lui correspond moins aussi.
Un mot qui veut dire un mot sur Bamba, Kader Bamba, écarté lui aussi, entre guillemets, écarté de cette feuille de match, il n'y figure plus. Est-ce que vous trouvez ça étonnant, David?
Non, parce qu'on sait comment il est. De toute façon, avec tous les coachs, ça se termine mal pour Kader Bamba.
Un de plus, quasiment tous. Un de plus, c'est dingue.
Donc, sauf avec Pierre, où ça se passait. Il aimait beaucoup Pierre, Kader Bamba. Donc, ça s'était plutôt pas trop mal passé.
Pierre aimait beaucoup Kader Bamba?
Ouais, mais je. Non, Kader Bamba aimait beaucoup Pierre.
Ouais. D'accord.
Donc voilà, ça se finit souvent comme ça avec Kader Bamba, joueur en fin de contrat. Là, j'ai pas la raison exacte de, enfin le motif de sa mise à l'écart,
mais on peut imaginer. Hein.
Et puis en plus, il y a de la concurrence devant, donc voilà.
Ça explique sa mise à l'écart. On va suivre en tout cas l'évolution de ces deux joueurs et puis les concurrences dont on vient de parler. On va se lancer, les amis, dans ce débrief du match de Paris.
Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Pierre Arnaud Barre, Presse Océan. David Filippo, Ouest France. Simon Rongoat, Eat West. Sans contrôle.
L'actu des Canaries a une touche de balle.
Le FCN pouvait-il espérer mieux face au Paris Saint-Germain? On décortique la prestation des Canaries, les choix du coach et la pression qui monte aussi pour le barragiste nantais dans un deuxième temps avant d'affronter Lorient et Metz.
Les timides, ça se tortille.
Brel, les timides.
Ça s'entortille. Bien sûr. Ça sautille.
Première fois, Brel.
Ça se met en vrille.
Première fois que Jean-Marcel donne une réponse.
Ça rêve d'être.
Ça se recroqueville.
Pourtant, on a parlé de Brel plusieurs fois.
Les Nantais ont-ils été trop timides face à Paris? Merci, David. Je vous demande de choisir entre deux options tranchées pour nourrir notre débat. Vous pensez plutôt que le FCN a bien défendu et peut nourrir des regrets au regard des occasions manquées en contre, ou bien Au contraire, que Gourvennec a finalement été trop frileux offensivement pour espérer quelque chose à la fin. Trop frileux ou bien tenté ?
Bien tenté,
étant défensif et en contrant. Jean-Marcel.
Moi, je dirais les deux, mais je m'en expliquerai plus tard et je finirai par trop frileux.
L'incapacité à choisir.
Ouais, c'est dingue.
Trop frileux.
Comme ça, t'es sûr d'avoir raison.
On a regardé le match ensemble avec Jean-Marcel et on oscillait entre les deux positions.
Bien tenté.
Il y a deux bien tentés. Allez, on va prendre le trop frileux, Jean-Marcel. On est d'accord. Bien tenté, pourquoi Pab ?
Parce que contre Paris, contre cette équipe-là, contre ses talents et par rapport au niveau... De football et de confiance du FC Nantes, c'était le jeu à tenter. Gourvennec l'a très bien expliqué après le match, il dit contre ce genre d'équipe-là, si tu t'exposes comme l'a fait la Real Sociedad en Ligue des Champions avec d'autres arguments, bah tu te fais punir.
Sissoko l'a dit aussi.
Il y a de la déception, on aurait mérité un meilleur résultat. Je dis pas qu'on aurait mérité de gagner, mais je pense qu'on méritait de ne pas perdre. Peut-être de l'extérieur, vous avez vu une équipe de Nantes basse, mais c'était le plan de jeu, de fermer l'intérieur. On sait qu'ils aiment mettre des joueurs entre les lignes. Le but était de les forcer à jouer sur le côté. Je pense que c'est ce qu'on a bien fait durant tout le match. Ils se procurent très très peu d'occasions franches et nous on s'en crée de belles, mais malheureusement on n'a pas su concrétiser au bon moment. Bien sûr, une défaite c'est toujours rageant, mais il n'y a pas à rougir au niveau de la performance des joueurs. C'est derrière nous, maintenant on va se concentrer sur le prochain match Lorient, un concurrent direct qui sera un match aussi important que ce soir.
Max nous dit sur Twitter, ce serait donc mieux de s'ouvrir, de prendre des vagues et une fessée que d'être pragmatique dans l'espoir d'arracher un petit point un quart d'heure de la fin du match. Un vrai footeux préférera toujours arracher quelque chose en étant pragmatique contre le PSG. Les autres sont des rêveurs. T'es sur cette idée-là aussi, David ?
Plutôt, moi c'est rare de voir le PSG se créer aussi peu d'occasions. Deux tirs cadrés, ils ont mis deux buts, hein, un pénalty, un tir contré par Sissoko. Nantes a eu des occasions, je suis d'accord, ce n'était pas en ballon du tout. On n'a pris aucun plaisir à regarder ce match.
Moi, j'ai pris du plaisir.
Les 40 premières minutes.
Non, pas, tu peux pas dire autre chose que ça.
C'était du handball.
Non, tu peux pas. C'était horrible. C'était vraiment. C'était une punition pour les yeux, sincèrement, pendant 40 minutes. Mais.
Parce que ça s'est emballé dans les 5 dernières minutes de la pause. Et c'est avant la pause.
Et là, ça t'influence un peu. Parce que t'as 3 occasions dans les 5 dernières minutes.
Je suis d'accord que le début de match, les 20 premières minutes sont très compliquées. Tu dis que Nantes va forcément plier, mais finalement. Ils sont sortis que tu vois bien le plan de jeu, il était clair, hein, c'était de défendre bas et de d'opérer en contre-attaque et ça a failli marcher. Les meilleures occasions en première période, elles sont pour Nantes. J'ai trouvé qu'il y a eu quelques sorties de balles intéressantes où ça combine bien justement sur les actions. T'as quand même eu des remontées de balles très intéressantes et puis il s'en faut vraiment de très peu pour que Nantes n'ouvre pas le score.
Nalo Geno nous dit sur Twitter, moi j'ai trouvé Gourvennec frileux. Malheureusement, si à chaque match on joue pour pas prendre de but avec 9 joueurs défensifs, ça va être compliqué. Et puis Rindovic nous dit dès la au départ, tu vois l'absence totale d'ambition. Paris fait croire que c'est passé pas loin car ils ont quasiment pas joué. Le refus de jeu de Gourvennec, c'est quand même quelque chose.
Mais en fait, la traduction de ce match-là, elle se fait aussi, enfin, ou la lecture se fait aussi par rapport au match de dimanche d'avant à Toulouse. C'est que ça fait 2 matchs de suite où tu joues très défensif.
Oui.
Contre Toulouse, moi j'ai trouvé ça à la rigueur, le plan de jeu était encore plus faible. C'était vraiment comme tu marques dès la première minute, tu restes complètement derrière.
C'est le scénario qui fait ça à Toulouse.
Voilà, c'est le scénario et après t'es efficace, tu marques 2 buts. Mais à Toulouse, tu proposes absolument rien. Moi, à la rigueur, j'ai vu plus de jeux contre Paris.
Jean-Marcel sur la frilosité, puis j'enchaînerai derrière.
Avant de parler de frilosité, j'ai dit que j'avais besoin de tunnel, c'est aussi pour expliquer le contexte. On joue pas tout à fait Paris de la même manière et c'est un club quand même qui reste sur 17 matchs sans défaite à l'extérieur. Sur 2 saisons, donc quasiment sur 2 championnats.
Donc
avec
personne n'y arrive face à Paris.
En tous les cas, quand tu les reçois, ça devient compliqué puisqu'ils ont égalé Paris, leur meilleure série à l'extérieur depuis 8 ans. Après, j'ai regardé aussi les comment Nantes a joué sur les 8 dernières saisons face au PSG à domicile. Et tu t'aperçois qu'ils ont les fois où ils les ont battus, à savoir la saison 2021-2022, la saison 2020-2021 et la saison 2020-2021, la saison 2018-2019 sous Vaïd, on est à peu près sur un ratio de passes et sur un ratio de possession exactement à peu près similaire que ce qu'on a vu samedi soir. Avec notamment ce qui était encourageant en tous les cas.
Une équipe aussi dominée, parce que là c'est 22% de possession pour Nantes, hein. C'est
alors,
terrible.
Sous Vaïd, en 2018-2019, tu as 29% de possession, 258 passes.
C'est un peu plus 29 déjà.
258 passes, tu en as 250. Alors faut savoir que le PSG aussi qui se présente sous Vaïd, c'est quand même le PSG de Nkunku, Choupo-Moting, Kurzawa, Draxler, Nsonki. Ouais. Donc c'est
celui-là c'était sans Mbappé et sans Dembélé la première heure c'était quand même il y a toujours du matos à Paris.
Je pense qu'à Randal Kolo Muani, Barcola c'est meilleur que Choupo-Moting, Nkunku à l'époque en tous les cas où il se présente voilà. La fois où tu les bats 2-1 au Parc des Princes avec notamment le but de Randal Kolo Muani, c'est 25% de possession, c'est 250 passes. Elle est la fois où tu les bats, le match qui nous a tous enthousiasmés à la Beaujoire, la saison 2021-2022, c'est 28% de possession, 267 passes. En fait, la fois où tu as essayé de jouer, c'est à l'époque de Conte Sao, 2016-2017. Tu n'as jamais quasiment produit autant de jeux, si ce n'est aussi lorsque tu es allé au Parc avec Antoine Camboire, la saison où tu fais la Coupe d'Europe. Et donc la saison de Conte Sao, tu fais 380 passes, 43% de possession. C'est là où tu rivalises le plus avec eux. Mais en fait, tu te fais anéantir par Cavani très vite dans le match. Tu perds 2-0, tu as 8 tirs et t'en fais 0 cadré. Ce que je veux dire, c'est que derrière...
T'as été bon. Non, mais t'arrêtes là, c'est bon. En fait, tu vas dans notre sens.
Non, parce qu'à la fin, il y a 0-2.
Non, parce que je vais t'expliquer aussi après. Ce qui a été intéressant, en tous les cas, moi, sur le plan de jeu de Jocelyn Gourvennec au début, c'est que t'avais besoin de te rassurer. Et la preuve, c'est que t'as quand même joué, ou t'as joué, c'est que t'as 10 tirs à l'intérieur de la surface de réparation contre 7 pour le PSG. Et une stat qui est souvent mise en avant par les entraîneurs, c'est le nombre de ballons joués dans la surface adverse. T'en as 29 pour le FC Nantes, 28 pour le PSG. Donc t'as réussi à produire du jeu.
T'as réussi à jouer en contre.
Et à très bien le faire, exactement dans le schéma où tu avais battu le PSG sous Antoine Camboire avec les buts de Merlin, Blas et puis Colomoy. Ou après, je pense que Gourvennec a été pour moi trop frileux, c'est que t'as quand même un PSG bis qui ronronne et qui est vraiment pas dans le rythme de d'habitude. C'est-à-dire que
Peux essayer de le piquer un peu plus, ce PSG-là.
Oui, parce que tu comprends très vite, au bout de 20-25 minutes, que de toute façon, ce PSG-là n'y arrivera pas. Barcola n'arrive pas à faire de différence. Lee est ailleurs et Ansensio, tu ne sais même pas qu'il est sur le terrain. Et Randal n'est jamais touché. Donc je pense que tu peux commencer à jouer, en tous les cas, un peu plus haut. Et c'est ta position, ton bloc, plus que ton schéma qui, moi, m'interpelle. Et où il a surtout été très frileux pour moi, c'est lors des changements. Au moment où tu es mené par le but de Lucas Hernandez, tu es mené 1-0.
C'est ça.
Tu fais du poste pour poste en sortant Kadewere pour remplacer Traoré. Or, Traoré, pour moi, avait été un maillon essentiel aussi dans le jeu, la victoire à Toulouse. C'est-à-dire que tu étais moins sur un 3 milieu, enfin sur 3 joueurs au milieu de terrain, mais t'étais sur un 4 au milieu de terrain avec Kadewere et Traoré sur les côtés, qui étaient très importants.
Alors
pour sortir le ballon.
J'ai la même remarque que toi, et c'est pour ça que j'ai trouvé ça un peu trop frileux, notamment en deuxième période, parce qu'au moment de l'ouverture du score parisienne, eh bien le schéma change, il faut aller marquer et on fait du poste pour poste, on n'ajoute pas un élément défensif, on passe pas tout de suite à 4.
Il répond, je crois.
On a posé la question à Jocelyn Gourvennec de ce passage à 4, je pense qu'il a hésité, hein, il nous l'a pas dit comme ça, il a hésité et il l'a fait un peu plus tard, quelques minutes plus tard, ce passage à 4 en défense. En revanche, quand on lui dit globalement vous avez été trop frileux, là il est pas content.
Ouais, après je vais être un peu piquant. Pour moi, ça c'est des commentaires de baron dans un fauteuil. C'est très facile de l'extérieur de dire ouais, ils ont manqué de ci, ils ont manqué de ça. Vous rendez pas compte la problématique que c'est de jouer contre ces joueurs-là. Quand vous regardez l'équipe de départ, quand vous regardez le banc, ils sanctionnent tout le monde. 16 victoires, 5 nuls, une seule défaite. Ouais, il faut de l'ambition contre Paris, il faut aller les chercher, etc. Dans les faits, c'est extrêmement difficile. Ici, je vous le garantis.
Et on a bien vu dans les commentaires des tweetos et des supporters qu'il y avait vraiment deux opinions qui s'opposaient. Il aurait fallu jouer davantage.
La particularité aussi où Jocelyn Gourvennec, alors je suis en partie d'accord avec lui, comme je l'ai démontré tout à l'heure, sur le contexte, tout ça. Par contre, le paradoxe, c'est que.
Je crois qu'on peut même dire que c'est lui qui est d'accord avec toi.
Oui, plutôt.
Il a démontré.
C'est plutôt dans son sens.
Pas les rôles, Jean-Marco, magistral.
Mais
confiance en toi.
Que ce soit toi qui le dise, Simon.
Voilà, c'est
toujours le juge de paix dans cette émission.
Avançons.
Mais par contre, où il se contredit aussi un peu lui-même, c'est que si on regarde le match aller, on y était, au Parc, le FC Nantes, et d'ailleurs c'était son deuxième match seulement à la tête du FC Nantes, avait fait pour moi une meilleure impression et avait produit beaucoup plus de jouer.
Jean-Marc.
Après, j'ai une petite remarque par rapport à ce que tu
qu'ils avaient beaucoup mieux tenu dans la tenue du ballon, notamment en deuxième mi-temps.
Là, les 40 premières minutes, c'était chaud.
Ils avaient même poussé Paris dans ses retranchements, parce que tu te sentais qu'ils étaient en train de jouer et pousser, d'avoir une maîtrise.
Mais le scénario des matchs face à Paris, c'est toujours la même chose. Les Parisiens, ils sont un peu suffisants et dès qu'ils mènent 1-2-0, c'était le cas au Parc. Après, ça se relâche. Enfin, on vit ça. Cette équipe du PSG n'est pas capable de gagner 4 ou 5-0 et d'ultra dominer ses adversaires. Donc, il y a un effet aussi de bascule lié à ça. Pab.
Non, je voulais rebondir sur ce que tu as dit un moment sur le côté bloc très bas. On lui a posé la question à Jocelyn Gourvennec. Il dit qu'il avait un analyste vidéo et un adjoint en tribune et qu'il leur a posé plusieurs fois la question. Il était en liaison avec eux. Il leur a posé la question, est-ce qu'on peut évoluer plus haut? Et en fait, ils n'avaient pas la réponse. Et je pense qu'aussi les joueurs, eux-mêmes, quelque part, quand ils jouent contre cette équipe-là, eh ben, Naturellement. Naturellement, il se recroqueville. Moussa Sissoko l'a dit à Toulouse il y a une semaine. Il dit le coach voulait qu'on évolue plus haut à Toulouse, mais en gros, c'est nous les boss sur le terrain. Il l'a dit, c'est nous les boss sur le terrain. Et nous, on se sentait mieux derrière. Et je pense que contre ce genre d'équipe-là, t'as du mal. T'as la volonté, mais tu restes derrière naturellement.
Et tu subis. Je vois qu'on avance, on a plein de sujets à traiter. David, le sondage.
Après la défaite 2-0 face au PSG, vous dites d'abord que le FC Nantes a très bien défendu 5%, aurait mérité de marquer 42%, a été frileux 25% et n'avance toujours pas 28%.
Oui, donc c'est pour ça, c'est partagé.
Il y a presque la moitié quand même, ouais, qui estime que le FC Nantes aurait...
Bah, les occasions, elles sont énormes.
Non, mais c'est un constat, ils auraient pu marquer. Après, même s'ils auraient dû
mériter
marquer...
Mériter de marquer, ouais.
Oui, mériter de marquer. On peut quand même...
Sur le match aller, Jean-Marcel...
Paris aurait peut-être accéléré, c'est toujours pareil.
Il y avait peut-être une tenue du ballon, et je suis d'accord... Plus intéressante au match aller, mais sincèrement, il y avait eu quasiment aucune occasion. Il marque d'ailleurs sur un corner,
la tête de Mostafa.
Et là, t'as au moins 5 occasions pour le FC Nantes sur cette rencontre.
Messieurs, Gourvennec va devoir trancher à tous les étages désormais. Il a son effectif au quasi complet. D'abord, la défense à 5, privilégiée désormais ou pas? On y a un peu répondu tout à l'heure. Quelqu'un veut ajouter quelque chose?
Non, répondu.
Question. Question de circonstance. C'est-à-dire qu'il a pas forcément installé une défense à 5. Il va faire en fonction de l'adversaire. Vous êtes d'accord avec ça?
Toulouse, c'était un manque de confiance.
Non, tu penses que ça va s'installer, toi, Jean-Marcel?
En tous les cas, moi j'ai un doute sur le fait de pourquoi ça, les raisons qui feraient que ça pourrait s'installer, mais par contre,
offensivement, ça va être compliqué parce qu'il a beaucoup de joueurs à laisser sur le banc.
Mais en fait,
dans l'équilibre et la gestion de son effectif,
on dirait Gattuso là qui est en train de me torpiller la défense en 5, soi-disant parce qu'une défense en 5 c'est systématiquement bas et dans tes 20 mètres, t'es pas obligé de mettre. Lorient joue avec une défense en 5. Est-ce que Lorient est chiant à avoir joué? J'ai pas le sentiment.
C'est pas Lorient l'année dernière, Jean-Marcel.
Ah bah oui, mais t'as pas vu le Metz Lorient, ni t'as pas vu le Lorient-Reims dans ces cas-là.
Si, Lorient-Reims, j'y étais. J'y étais au Moustoir.
Et
t'as regardé Metz-Lorient?
Ouais, j'ai regardé Metz-Lorient.
T'as que ça à foutre le dimanche après-midi, très sérieusement.
Mais tu sais, il regarde, il somnole, il y a l'apéro, tout ça, il voit 20 minutes.
Après le gigot.
Surtout, il prépare ses cours du mardi.
Le gigot, c'est en Vendée. Bref, je sais plus ce que je voulais dire.
Défense à 5, on installe ou pas?
Oui, en fait, je trouve qu'il a, en tous les cas, sur les derniers matchs, trouvé une assise défensive et quand même un bloc qui est très discipliné. Je faisais la référence tout à l'heure au bloc marseillais. Enfin, entre les deux, il y a un monde. On peut pas, au moins, c'est une équipe qui concède peu d'occasions. Après, la difficulté pour moi, et notamment lorsqu'il va jouer des équipes, ce qui va arriver bientôt.
Lorient et Metz à domicile.
C'est qu'il faut que ce système-là se traduise par d'autres intentions sur le terrain. C'est-à-dire que tu peux pas jouer non plus aussi bas. En tous les cas, avec cette équipe-là,
aussi.
Et que notamment, je pense que pour moi, un joueur comme Benny Traoré mérite d'être dans tu sors un milieu de terrain,
on arrive à ce triumvirat au milieu qui ne souhaite pas toucher.
Sissoko,
Chirivella,
suspendu contre
Metz, il sera pas là, Sissoko. Mais à Lorient, effectivement, dans ce cas-là, si tu joues à 5 derrière, et je suis plutôt d'accord avec toi, tu peux jouer plus haut. Non, c'est assez rare.
T'oses pas l'avouer, c'est tout, c'est pour ça.
Au milieu de terrain, il faudrait peut-être en enlever un. Le retour de Moutou Sami, qui a été très bon à la Coupe d'Afrique des Nations et qui revient un petit peu gonflé par ce plein de confiance. Il a une chance d'être dans le game ou pas?
Je pense à Mollet plutôt.
Mollet. Ah je vois pas où.
Tu joues à 3, mais t'enlèves.
Mollet, déjà, il va faire son retour sur le banc, ce serait déjà pas mal.
Oui, je pense qu'il sera dans le groupe. Je pense à Mollet, si tu joues, tu peux bien jouer avec 3 milieux de terrain et Mollet un peu plus haut et avec 3 attaquants. C'est pas impossible. Tu joues avec 2 milieux de. Quand même.
Non, mais c'est cool parce que là, tu cites des films, mais j'arrive pas à voir les positionnements.
À 5, ça marche pas, David.
Ouais, c'est pour ça.
Ça rentre pas, ça fait 12 joueurs.
5 et 3. C'est bon,
mais ça joue. 5-3-3, ça fait 12.
Non. Il nous a déjà fait le coup une fois.
5-3-2, je parle. Un 5-3-2.
Attends, mais que 2 devant. Donc
oui, j'en mets que 2 devant.
Moi, j'ai envie de voir.
Mais Traoré et Mohamed.
Comme contre Paris.
En fait, sauf que t'as Amolé qui est quand même un joueur qui est un peu plus offensif.
Et donc, tu sors Kadewere.
Non, je sors 6. Pourquoi pas Sissoko?
Voilà. Vous voulez
et donc
pas...
tu fais pas rentrer Benny Traoré? Moi je te défendais la condition de Benny
Traoré devant. Ouais.
À la place de faire jouer les éléments
à la place de Kadewere, pourquoi pas?
Ah bah oui, en fait oui.
Vous voulez pas les faire jouer les éléments offensifs? Faire jouer Kadewere, faire jouer Benny Traoré et faire jouer Mostafa dans l'axe.
Surtout que t'as Moses Simon, tout le monde l'oublie.
Et il y a Moses qui revient en plus.
C'est quand même quelque chose qu'on attend avec Gourvennec, et moi c'est là où je l'attends. C'est que tu l'as dit, Jean-Marcel, et on l'a dit à longueur de podcast. Nantes étant en manque de confiance, il a voulu absolument, et c'est le cas depuis son arrivée, resserrer la défense au maximum. Il a trouvé une défense, ok, sauf qu'en fait, offensivement, tu vois que ça reste, même si tu as des occasions contre Paris, tu restes en difficulté.
Bah oui.
T'as du mal à créer du jeu, t'as du mal à créer des situations et t'as du mal à marquer.
Et qui a les situations, Pab ?
Et
juste
au milieu
parenthèse,
de terrain,
je te redonne la parole. Qui a les situations ? C'est Pedro Chirivella, c'est Samuel Moutoussami.
C'est Moustapha Mohamed. Donnarumma, il n'a pas non plus été manchot.
C'est vrai, mais si ce sont des milieux qui sont là, si tu avais des attaquants, peut-être.
Mais c'est même Kozza.
Mais je trouve
même
que t'as.
Voilà. L'occasion.
Non, mais t'as un problème.
Après,
depuis
pas
quelques matchs.
Non plus, à Toulouse, les occasions, c'était des attaquants.
Oui, mais t'as un problème.
La vérité d'une semaine, vous êtes gentil.
La fin du match de Paris, il n'y avait pas suffisamment d'attaquants pour moi.
Moi, je te parle depuis l'arrivée de Gourvennec. Depuis l'arrivée de Gourvennec, t'as du mal à te créer des situations, à faire du jeu et à évoluer avec des offensifs.
Tu crées pas de jeu, mais tu te crées des occasions, je trouve.
Oui, mais t'as quand même. Je trouve. Moi, je pose la question du milieu de terrain où t'as Sissoko, Douglas Augusto, et on se posait la question de l'utilisation de Pedro Chirivella et de son influence dans le jeu. Là, contre Paris, ça marchait parce que les rares ballons qu'il avait, il en avait pas beaucoup, mais il arrivait à lancer sur les côtés des offensifs. Mais sinon, on n'arrive pas à avoir un milieu de terrain qui pose le ballon et
c'est
qui
vrai.
Construit.
C'est pour ça que je vous parle de Mollet. De Mollet, qui a
notamment.
Cette capacité.
Mais Mollet, il jouait.
Mais les quatre offensifs, vous allez pas. Ça va être compliqué de les aligner ensemble. Hein. Vous pensez à Kadewere, Simon, Mohamed.
Mais t'en as sur le banc qui vient remplacer l'un d'entre eux.
En fait, le choix qui se pose à Jocelyn Gourvennec, c'est est-ce qu'il doit toucher à son milieu de terrain dont il en a fait, lui, en tant qu'ancien milieu de terrain, le cœur de son système, ou est-ce qu'il doit toucher à sa défense qui lui a montré, en tous les cas, que par une défense à trois centraux, ça fonctionnait très bien sur les derniers matchs. Donc en fait, le choix, il est là, et en fonction de ce qu'il choisira, s'il privilégie la défense, il pourra derrière faire d'autres choix au milieu et donc devant.
Mais est-ce qu'il doit aussi marquer des buts et accessoirement prendre des points ?
Si je prends l'exemple de Lorient, on en parlera plus tard, mais Lorient joue en 3-4-3, c'est un système aujourd'hui qui regarde des rapports de force que tu as devant. Enfin, si tu as recruté devant, c'est pas juste pour avoir de la variété dans ta rotation, j'espère.
Gourvennec, c'est désormais 7 points en 9 matchs de Ligue 1 sur le banc du FC Nantes. C'est le pire total d'un nouveau coach dans l'histoire du club. Est-ce que ça dit quelque chose, cette stat, ou est-ce qu'il faut attendre...
Arrête avec cette expression, est-ce que ça dit quelque chose
ou est-ce qu'il faut attendre encore un peu, parce qu'il ne dispose finalement que maintenant de l'ensemble de son effectif avec les joueurs arrivés au Mercato. Franchement, on peut le dire, on nous envoie des messages, journalistes, en nous disant bah, c'est tellement un bon communicant qu'il endort tout le monde. Et en gros, vous n'êtes pas lucide alors que le bilan chiffré.
Et
oui,
il est catastrophique, mais évidemment, je vois les messages passer, la mansuétude des journalistes, mais c'est là, on va peut-être en parler, mais c'est maintenant là qu'on va voir Gourvennec. C'est dans les 2, 3 ou 4 matchs, même les 2 qui arrivent, Lorient et Metz.
Lorient,
sincèrement,
déplacement
si Gourvennec prend 0 points, si le FC Nantes, parce que c'est pas lui qui joue, mais c'est lui le coach, si lui il prend 0 points sur les 2 prochains matchs, bah non, mais ça veut dire que Gourvennec, ça marche pas, quoi. Voilà, c'est tout.
Je sais pas.
Bon.
Non,
bah,
non mais ce qu'on a dit juste avant, non mais je suis d'accord avec toi que de toute façon ce qui compte ce sont les résultats.
Bah, oui.
Voilà, ça c'est le truc numéro un. Après, ce que je disais là à l'instant, c'est que depuis son arrivée, il essaie de mettre des choses en place. Il a voulu mettre en place une défense solide, arrêter de prendre des buts parce que avant son arrivée, Nantes prenait énormément de buts. C'était quand même la deuxième pire défense du championnat. Il a solidifié d'abord. Et aujourd'hui, son défi, ce qu'on vient de dire, c'est comment tu articules maintenant que tu es solide derrière, comment tu articules devant. Parce que pour moi, si tu as Sissoko, Douglas Augusto et un Chirivella qui est perdu au milieu, tu ne crées pas d'occasion pour tes attaquants. Tu peux mettre les attaquants que tu veux, ils n'auront pas de ballon. Donc comment tu articules ta défense vers l'attaque ? C'est son défi aujourd'hui à Jocelyn Gourvennec.
Vraiment, je trouve que c'est l'heure de vérité pour lui parce que là, il a plus d'excuses. Il a tout son effectif. Il fut un temps, il n'avait pas Benny Traoré qui était suspendu. Il y avait les joueurs qui étaient à la canne. Il y a eu le match de Toulouse, il avait presque tout l'effectif. Il est allé gagner.
Ouais.
C'était nul. Ok, c'était pas bon, mais il a pris les trois points
qu'il fallait.
Ensuite, c'était le PSG. C'est un match que je mets complètement à part. Là, maintenant, il n'y a plus d'excuses. Il joue des adversaires directs à Lorient et contre Metz. Marche pas sur ces deux matchs.
Pourquoi ces deux matchs ? Il y en a d'autres.
Il y a Strasbourg et Marseille.
Non, mais je sais bien. Mais ce que je veux dire, c'est que tu joues deux adversaires directs. C'est évidemment, si tu prends 0 points sur 6.
Chirivella l'a dit, d'ici mars, il faut absolument qu'on prenne.
Moi, je suis pas contre sur cette lecture de l'immédiateté.
Non, mais c'est pas d'immédiateté, Jean-Marcel.
Je peux terminer, David,
mais ça va pas être bon parce que tu pars mal, donc je préfère.
Allez, vas-y.
Tout de suite, il s'énerve dès qu'il est en difficulté. Non, en fait, j'aime pas cette lecture de l'immédiateté-là où, en fait, ce sont les résultats d'aujourd'hui qui amèneraient un jugement sur le travail de Jocelyn Gourvennec. On l'a dit, pour moi, il y a deux périodes de Jocelyn Gourvennec. Il y a la première où il arrive, il prend prend l'équipe en main, et la période de janvier où il est en reconstruction totale ouais. de ce qui se passe. Donc le problème, c'est que les deux comptent. Mais ce que je veux voir, moi, c'est le bilan sur depuis janvier où il est en reconstruction et les progrès éventuellement qui sont manifestés et qui se traduisent. Mmh. J'aime pas qu'un coach soit sanctionné là au bout de deux matchs parce que ça deviendrait dramatique. Après, où je suis d'accord avec David, c'est par contre, c'est que c'est l'heure de vérité là. C'est-à-dire, au regard de ton calendrier, de toute façon, et de ce qui va se passer en mai, c'est que tu joues ta saison sur tes quatre prochains matchs. Ou en tous les cas, une partie de ta saison sur les quatre prochains matchs. C'est-à-dire que soit tu vas... La chance qu'on a eue sur la dernière journée, c'est que quelque part, en fonction des résultats, même si tu as mis barragiste, ça t'a resserré tout le championnat.
Ça
avait été le cas en septembre, où on s'était dit, en septembre, on disait, ce championnat à 18, où on a resserré à la fois le championnat et le niveau, va se jouer. On disait qu'il y aura, on pronostiquait en tout cas, qu'il y aurait 5-6 équipes qui seraient concernées jusqu'à 2-3 journées de la fin par la descente, par la place de barragiste, et on va y arriver.
La fin de championnat, tu en parles, Jean-Marcel, de ce mois de mai. Nantes ira à Monaco juste avant.
Ah, donc tu fais un point calendrier.
Juste avant, tu reçois Lille, tu vas à Brest. Okay. Je fais un point PAB. Okay. Tout ça pour dire qu'effectivement, les quatre prochains matchs sont décisifs parce que ce sont des grosses équipes que tu joues à la fin et tu glaneras très peu de points. On en parle de la situation de barragiste parce que le week-end a accéléré les choses.
Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Pierre Arnaud Bar, Presse Océan. David Filippo, Ouest France. Simon Rongoat, It West. Sans contrôle.
L'actu des Canaries a une touche de balle.
Nantes est 16e, alerte rouge donc. Est-ce que c'est vraiment le bon moment pour jouer les Merlus? On va en parler avec un confrère l'Orienté avant le match au Moustoir samedi. Et puis Pierre Aristouille qui rompt le silence dans les colonnes de Sud-Ouest et sur les réseaux sociaux.
Quand on arrive en ville,
quand on arrive en ville.
Tout le monde change de trottoir.
Michel Berger.
On n'a pas l'air viril.
Non,
mais
c'est
on
pas
fait
ça,
peur
c'est,
à voir.
C'est Starmania.
Qui chante?
Ouais.
Des gars qui se maquillent. Ça fait rire les
Balavoine.
Patients.
Balavoine. Balavoine.
Quand il voit du sang, non,
Michel Berger, c'est lui qui fait Starmania.
Là, c'est Balavoine.
Oui. Mais attention, quand on arrive en ville.
Qu'est-ce que tu chantes bien.
Ah, c'est pas possible.
Peur sur la ville avec cette place de barragiste, 16e, victime des succès ce week-end de Toulouse, de Lorient et de Montpellier. C'est alerte rouge ou pas, selon vous? On va prendre l'avis d'un auditeur d'abord,
alerte
qui
orange.
Va gagner, deux places VIP pour le prochain match Nantes-Metz dans Sans Contrôle, grâce à nos copains de NH8, la marque de streetwear 100% nantaise. On accueille Morgane du Cellier dans le 44, qui a répondu à la question de la semaine sur Twitter. Salut Morgane.
Salut l'équipe.
Salut, comment ça va?
Salut.
Ça va très bien.
Ton avis sur la situation du FC Nantes, dis-nous.
Bah écoute, c'est chaud, c'est comme tous les ans, j'ai envie de te dire.
Donc c'est la force de l'habitude.
Exactement, t'as résumé Jean-Marcel, la force de l'habitude. Surtout que j'ai 47 balais, donc j'ai connu les années, tu vois, 95-2001, où on se régalait, quoi. Et là, on passe, c'est compliqué, quoi, en ce moment. Moi, je vois mes Twins, ils sont nés en 2004. Ils se sont régalés parce qu'on a eu la Coupe d'Europe et qu'on a gagné une Coupe de France, mais sinon, c'est
ils n'ont pas connu grand-chose, hein, les pauvres.
Ouais, au moins, t'as du suspense tous les ans, hein.
Ah ouais, non mais celle-là, c'est plus du suspense, les gars.
Comment tu vois la fin de saison? On parlait à l'instant de Jocelyn Gourvennec, la pression montait un peu sur le besoin de résultats, ton regard là-dessus?
J'ai répondu à votre sondage, j'ai pas compris, les gens avaient l'air d'être contents, on aurait pu marquer et tout ça. Moi j'ai trouvé ça extrêmement ennuyeux, très frileux, on n'a pas attaqué. Si, j'ai une petite pensée pour Loïc Folio, Coco a réussi ses centres, donc c'était super.
c'est vrai que le centre de Coco a failli finir en but, ouais.
Mais écoute, non, moi j'ai trouvé ça trop frileux. Et ce qui m'inquiète vraiment, c'est que si vous regardez le calendrier, les gars, les quatre derniers matchs, mais c'est chaud, patate. Hein.
Mais on vient de les donner. Et effectivement, il faut prendre des points maintenant pour les Nantais. Combien de points à prendre entre toi, tu seras à Metz, on t'offre des places pour Metz. Entre Lorient et Metz, tu souhaites combien de points?
Ben moi, je souhaite 6. Mais j'ai envie de te dire, 4, ça sera déjà beau.
Ouais, 4 ce serait déjà pas mal, ça pourrait suffire à sortir Nantes provisoirement au moins de cette zone rouge et de cette place de barragiste. Merci beaucoup Morgane de ton passage dans Sans Contrôle, à
tu
bientôt.
Cuisines quoi là? Tu cuisines quoi?
Ah oui, les cuistots Morgane, bah c'est oui. Vrai, on l'a pas dit.
Ouais, bah là tu vois, je suis sur des petites Saint-Jacques avec une petite sauce sur iso, les gars.
Bah faut qu'on aille manger chez toi.
Non, mais faut passer à la maison, attends.
Tu allez, belle journée à vous les gars, salut
Morgane.
Il y en a qui bossent.
Ouais, c'est ça, il y en a qui bossent. On continue de s'intéresser à cette place de barragiste. Messieurs, je disais alerte rouge, Jean-Marcel alerte orange. Est-ce que c'est un épiphénomène? Est-ce que, voilà, parce que le classement ne dit pas l'écart entre les équipes? Pab.
Bah non, c'est un ça veut quand même dire quelque chose pour reparaphraser Jean-Marcel. Parce que non, t'es barragiste.
Ça dit toujours des choses.
Voilà, donc t'es quand même pas bien classé. Après, il n'y a pas non plus, c'est pas une alerte rouge dans le sens où c'est très serré au classement.
Il y a 5 points.
Voilà, 3. Et puis t'as 4 équipes qui sont à 22 points comme Nantes. Donc voilà, je crois que t'es à 5 points de la 10e place.
C'est ça.
Tu peux vite remonter, mais par contre, il faut que tu mettes un peu l'impulsion pour monter parce que là,
il faut le faire maintenant, quoi. Il faut le faire maintenant.
Que, voilà, comme on disait, tu joues des adversaires directs, donc les points que tu prends pas là, c'est les points que les autres prennent.
Tu as dit 5 points de la 10e, c'est ça ?
Je crois, non ?
Non.
C'est 3 points de la 10e place. Il faut être précis dans ce qu'on dit.
Merci, Baba.
Non, mais moi,
c'est moi qui dis 5 points.
Donc c'est encore moins inquiétant, alors.
Ouais.
Donc tous les voyants sont au vert.
Non, je dis pas ça. Mais c'est
important d'être précis.
Je crois qu'il y a 7 équipes dans un mouchoir de poche, quoi.
Bah oui, t'as Nantes, Lorient, Montpellier, Toulouse, Le Havre et voilà, Lyon qui est à 3 points.
Il faut s'en extraire maintenant pour les Canaries, notamment à la faveur de ce déplacement au Moustoir dans le Morbihan. On s'intéresse à ce FCL avec un expert des Merlus, Baptiste Cognier d'Ouest France. Salut, Baptiste.
Salut tout le monde, bonjour à tous. Salut.
Les Merlus attendent les Canaries de pied ferme, hein, tu nous le confirmes, c'est la remontada qui est en cours pour Lorient, ça va bien en ce moment?
Ouais, ça va bien, et surtout qu'après le match aller où Lorient avait pris une petite rouste, ils menaient au score et finalement ils en avaient pris 5 à l'arrivée.
5-3, c'était un match magnifique.
C'est ça, 5-3, bon, depuis de l'eau a coulé sous le pont et les Merlus vont bien mieux, ils restent sur des belles performances emmenées par un bomba en feu, donc c'est vrai que c'est pour les Merlus, c'est le bon moment quoi d'accueillir les Nantais dans ce match super important.
Est-ce que tu peux nous expliquer, Baptiste, un peu les raisons de ce regain de forme et cette transformation des Merlus qui étaient quasiment au fond du trou après la défaite 4-0 à Brest avant Noël, et on a le sentiment que cette équipe-là a été ressuscitée avant l'heure?
Bah ouais, complètement, comme tu le dis, à Brest avant Noël, là, Lorient pouvait pas toucher... plus le fond que ça, c'était la crise à tous les étages, on voyait rien sur le terrain. Et à ce moment-là, on se disait ça va être un long chemin de croix la deuxième partie de saison, Lorient file tout droit en Ligue 2. Puis finalement, il y a eu ce mercato, 5 recrues, et aujourd'hui parmi les 5 recrues, donc il y en a 4 qui sont titulaires, donc ça fait quasiment 50% des joueurs de champ qui ont quand même été changés.
Ils ont un peu comme Lyon quoi, vous avez changé la moitié de l'équipe.
C'est ça, avec moins de moyens, évidemment. Mais c'est clair que ces nouveaux joueurs qui sont arrivés, qu'on ne connaissait pas forcément sur le papier, hormis Louza que vous connaissez bien du côté de Nantes, mais sinon les autres sont arrivés de championnat de seconde zone et on ne s'attendait pas à ce qu'ils soient aussi performants aussi rapidement, clairement. Et ils ont apporté toute une plus-value et on sent que vraiment ce vent de fraîcheur, un nouvel état d'esprit et que ça tourne sur le terrain désormais et on voit des choses enfin à Lorient.
Et il y a une nouvelle tête aussi dans le staff, tu peux nous en parler, il s'appelle Yannick Cahuzac et visiblement il a fait un bien fou.
Complètement, il a apporté Sagnac qu'on lui connaissait sur le terrain. Régis Lebris, c'est vrai, a pris un peu de recul. On disait qu'il était vraiment concentré sur le mercato, parce que cette fenêtre de mercato était vraiment importante. Ils avaient déjà loupé les précédents mercato, donc ils pouvaient plus se permettre de passer à côté. Et c'est vraiment Yannick Cahuzac qui est arrivé ici à la surprise générale un petit peu. Et il a tout de suite pris le lead. Il s'est mis au milieu de ses troupes en aboyant entre guillemets. Voilà, en faisant passer les messages, et il a insufflé un nouveau message, quelque chose de nouveau. C'était peut-être, c'est vrai, Régis Lebris avait ses adjoints habituels qu'il avait déjà en réserve. Donc c'est vrai, un petit vent de fraîcheur, une nouvelle tête, un nouveau discours.
À Lorient, on fait pas sauter le coach quand ça va pas, on met un adjoint.
Ouais, c'est pas la façon de faire du président Ferry, hein. Il l'a fait qu'une fois depuis qu'il est là en 2009, donc et ça avait, à l'arrivée, ça avait pas fonctionné. D'ailleurs, quand Sylvain Ripoll était parti, donc je pense que clairement le staff et même le coach se posaient forcément des questions après Brest. Hein. Tout le monde voyait le président appuyer sur le bouton à l'intersaison et je pense que ça aurait surpris personne d'ailleurs, tellement le FCL était au fond du gouffre. Mais finalement voilà, c'est une nouvelle tête qui est arrivée et pour l'instant ça paye, un choix payant de maintenir Régis Lebris et d'apporter ce 109.
Ouais, Lorient qui reste sur une victoire à Strasbourg 3-1, une victoire face à Reims 2-0 et un succès à Metz 2-1, 9 points sur 9
et
pour les Merlus.
Et
débute surtout.
Ouais,
c'est débute avec un bamba en feu, hein, tu en as parlé, mais c'est la belle surprise de ce mercato.
C'est même au-delà des 3 victoires, c'est même 4 matchs sans défaite pour l'an. Est-ce qu'on, dans le jeu, Baptiste, tu revois un peu le FCL des débuts de Régis Lebris à l'époque de Mofi, Ouattara, le fait ou c'est encore trop tôt?
On voit certaines choses. C'est vrai que quand Régis Lebris a pris l'équipe, les premiers mois, c'était on peut le dire, on revoyait du foot après des années un peu morose entre guillemets. Donc c'est vrai que là on revoit avec l'apport de Louza, voilà, encore une fois que vous connaissez bien, il apporte vraiment un plus au milieu avec sa vision du jeu. Il fait vraiment le lien entre la défense et l'attaque. Bamba, vous l'avez dit, qui est en feu. On a Eman Kari et Julien Ponceau au milieu qui aussi, on peut considérer quasiment que ce sont des recrues et qui apportent vraiment leur touche technique. Et puis derrière, ils ont retrouvé de la solidité. Donc ça fait un ensemble assez cohérent. Et on a des phases, certaines phases dans le jeu rappellent effectivement ce FCL des débuts de Lebris il y a maintenant une saison et demie.
Et le vestiaire est apaisé aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup des résultats, mais le vestiaire était une pétaudière. Est-ce que ça va mieux là aujourd'hui?
Oui, c'était le feu, clairement. C'était le feu en première partie de saison. Là, vraiment, encore une fois, les nouveaux ont apporté autre chose. Un 109, ils n'ont pas connu, eux, la première partie de saison complètement ratée, où voilà, ça partait un peu dans tous les sens et plutôt dans le négatif que dans le positif. Donc c'est vrai qu'il y a eu un renouveau qui a vraiment fait du bien. Et aujourd'hui, on revoit des sourires à l'entraînement. Tout le monde parle d'un... c'est le jour et la nuit, clairement. Donc c'est pas une nouvelle saison, mais clairement, ça peut y ressembler tellement le visage est complètement différent à quelques semaines de ça.
Est-ce que tu peux nous dire qui sera normalement absent? Je crois que Louza est de retour, hein, il était absent à Strasbourg. Oui. Il sera là et l'état des troupes.
Il était ménagé. Je pense que c'était important pour lui et pour le coach de pouvoir compter sur lui pour Nantes. Donc ils ont fait le choix de le ménager à ce match-là, comme Panos Katsiris qui était absent, le nouveau grec, leur latéral droit.
Pas mal aussi.
Il fait du bien, il est super énergique. D'ailleurs peut-être un peu trop des fois. On a l'impression de voir un peu un chien fou sur le terrain, mais il apporte vraiment. Non, le point noir, c'est la blessure de Talbi qui est sorti blessé à l'épaule en première mi-temps et qui sera forfait. Donc ça, c'est un des points noirs. Après, on a vu la rentrée de Laporte qui a plutôt été bon. Il avait connu aussi un passage compliqué. Lui aussi ressort la tête de l'eau. Donc on peut compter sur un bon Laporte. Mais effectivement, l'absence de Talbi, qui est vraiment le taulier derrière, ça sera le point noir du match de samedi. Ouais.
Ça va être un sacré match avec l'enjeu évidemment du maintien en toile de fond, on l'a évoqué juste avant. Merci beaucoup Baptiste Cognier d'avoir fait un petit détour par chez nous. On vous invite, si vous aimez bien les Merlus, à découvrir avec Baptiste Cognier, avec Quentin Burban et avec Romain Wex pour le côté radio, un petit frère de Sans Contrôle version Merlu qui s'appelle L'Orient Express et que vous allez publier très bientôt, tu confirmes Baptiste?
Exactement, pour rien vous cacher, on a tourné l'émission ce matin, donc c'est dans les tuyaux.
Longue vie à l'Orient Express.
C'est excellent.
Même David l'a compris. Donc
on lui souhaite le même succès et les mêmes retours des supporters que Sans Contrôle. Merci Baptiste.
Salut.
Salut à tous. Salut,
on se retrouve samedi pour le derby breton au Moustoir entre l'Orient et le Football Club de Nantes. On va terminer avec Pierre Aristouille qui a fait deux sorties médiatiques sur ces dernières heures. La première, c'est chez nos confrères de Sud-Ouest. Et puis la deuxième, c'est il y a quelques heures sur les réseaux sociaux pour signifier qu'il avait reçu sa lettre de licenciement du FC Nantes. Il n'est plus salarié des Canaries désormais. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces deux sorties médiatiques? Qui veut prendre la parole? Pab, vas-y.
C'est la suite logique. On l'attendait depuis de toute façon son éviction. On savait que, moi j'en avais parlé fin décembre, que ça partait au conflit avec sa direction et qu'il n'a plus de nouvelles. Donc c'est la suite logique de la procédure. Il a reçu sa lettre de licenciement et je pense que ça va finir au prud'homme tout ça.
Qu'est-ce qu'il dit médiatiquement, Jean-Marcel, dans Sud-Ouest ou dans cette intervention sur Twitter? Qu'est-ce qu'on peut en retenir?
Qu'il a eu des grosses difficultés à surmonter la décision, notamment dans Sud-Ouest où il dit quand c'est brutal, c'est toujours difficile de s'en remettre. Il parle de reconstruction. Il dit aussi que c'est très bizarre de se lever le matin sans avoir d'objectif précis. Donc évidemment, c'est
cette violence-là, du tout à rien.
Du tout à rien, ouais. Alors pour l'avoir eu régulièrement au téléphone entre le moment où c'est arrivé et aujourd'hui, Je suis pas surpris par ces confidences. Après, elles ont, même si je suis surpris par contre qu'ils les étalent publiquement au regard de la procédure qui est engagée, et puis au regard du rebond possible sur lequel il n'a pas fermé la porte, même si on, lui-même n'a pas défini encore ses intentions et ce qu'il fera plus tard.
Le rebond en tant que coach dans un autre club.
Je parle de rebond éventuellement possible. Il y a plein de choses au conditionnel qui perdurent. Et ensuite, après... bah, je sais plus
sur Twitter, il parle d'injustice quand même.
Sur Twitter, il a une phrase très forte quand même. Il dit de mon côté, je garderai tout, y compris les épines. Donc, tu vois, il parle quand même beaucoup d'amertume.
Il y a une vraie souffrance hein, pour lui à travers ce qui s'est passé, Jean-Marcel. Tu nous le confirmes?
Ouais, bah, parce que c'est quelqu'un d'entier, de très sensible. Je sais pas si cette sensibilité, elle est là. Même lui, se poser la question, elle est adaptée à ce milieu-là. Et là, ça dépasse vraiment, pour le coup, le FC Nantes. Il a pris un vrai risque en tous les cas, non pas lorsqu'il est venu, lorsqu'il a répondu favorablement à l'appel pour sauver le club en fin de saison dernière, mais plutôt un vrai risque de prendre cette équipe en début de saison, puisqu'évidemment il changeait de contrat et qu'il savait qu'en cas d'échec il ne retrouverait pas de place à la formation. Et puis même lui, on n'a pas envie de revenir à la formation. Il le dit d'ailleurs en Sud-Ouest, passer des stades de 50 000 personnes à un match de N2 à 200, il manque l'adrénaline, donc je pense qu'il a découvert autre chose. Je pense qu'il aurait en tous les cas eu envie de continuer, ça c'est sûr. Envie d'autre chose, ça il le dira plus tard, et puis on lui laissera le temps, comme il dit, de se reconstruire, parce qu'il y a un temps pour tout. Il est plutôt dans cette phase-là. Il parle d'injustice, évidemment, c'est arrivé trop vite. Pour lui, effectivement, on l'a dépossédé de son équipe à un moment où il estimait qu'il n'avait pas complètement fini ce travail et que les dés étaient un peu pipés, puisqu'on ne lui a pas forcément donné tous les moyens qu'il aurait. Mais ça, c'est des choses qu'on savait, avec une limite de l'exercice de ses confidences sur Sud-Ouest, c'est qu'effectivement, il est en procédure et il ne peut pas non plus répondre à toutes ces choses, y compris même parfois peut-être faire sa propre introspection sur des choses qu'il aurait éventuellement ratées durant son mandat au FC Nantes à la tête d'équipe première.
Sur Twitter, il remercie également simplement et pudiquement l'ensemble des supporters nantais pour le soutien, la passion et la bienveillance à son égard. Et c'est vrai que depuis son départ, franchement, le soutien des tribunes est assez impressionnant.
Oui, et certains me reprochent parfois de le critiquer dans les podcasts et d'encenser, ou en tout cas d'épargner Jocelyn Gourvennec. Moi, c'est un avis très personnel. Je pense que c'est un super entraîneur, Pierre Aristouille, mais il est tombé dans un très mauvais contexte. C'était pas le bon moment et il s'est très mal encadré, enfin très mal
entouré.
Voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Et moi, j'ai la conviction qu'il peut réussir, mais en tout cas, c'était pas le bon moment. Il a réussi l'opération sauvetage. Peut-être qu'il aurait dû retourner encore.
Est-ce qu'il
il
fallait
est encore
pas
jeune,
y
il a que 42
avec
ans.
Avec le recul, est-ce qu'on se dit, est-ce qu'il fallait pas y aller sur cette opportunité?
Alors c'est facile de dire ça après, mais je pense que c'était pas, voilà, il y a aussi le contexte qui est pas simple. On sait que ce club n'est pas simple, et c'était pas pour moi le bon moment. C'était peut-être un peu prématuré, et je répète, il s'est mal entouré, mais j'ai la conviction que c'est un excellent technicien, vraiment.
On l'a dit
pourra...
ici.
Oui, oui, mais non, mais je le redis parce que certains sont toujours en train de nous reprocher de ne pas avoir assez défendu, comme j'ai pu le lire. Moi, j'ai reçu des messages assez violents en privé, des gens qui disent t'es toujours en train d'épargner Gourvennec, mais Pierre, tu l'as pas défendu, ça c'est faux.
Donc c'est faux. Voilà, j'ai vu David avec les yeux rougis après avoir lu ces messages.
Mais là, tu vois,
messages.
Je les ai. Je suis même ému.
Non, mais ça reste un énorme gâchis. Parce que, puis surtout quand pour le public nantais, parce que entraîneur issu de la formation, parce que il a joué avec l'équipe, il était joueur du FC Nantes sous de Nouex tout début des années 2000, et qui ça représentait quelque chose. Le projet Aristouille, sa nomination représentait quelque chose. Et ça, c'est une frustration parce que lui a fait des erreurs, je pense.
Oui,
personnellement,
c'est ce que j'allais dire.
En intégrant pas des jeunes, par exemple. Ce que fait Gourvennec dans la difficulté, on voit qu'il, lui, il a réussi à intégrer
des erreurs.
Voilà, il a fait des erreurs. Et pour moi, ça reste un gâchis parce que il y avait une attente qui, de toute façon, se traduit aujourd'hui auprès des supporters, enfin, d'une grande partie des supporters qui ont la nostalgie à Aristouille, parce que ça reste un projet avorté. Tu imaginais quelque chose, tu as vu du beau jeu. Tu as vu du beau... Oui, mais lui, il avait une ambition de jeu qu'on a vu pendant les matchs. On parle de Lorient qui arrive. Ouais. Lorient, le match aller, 5-3, t'avais du jeu, des buts.
On
voilà.
a vu une philosophie de jeu, on a vu une idée de jeu.
Exactement.
Qui changeait des coachs précédents et ça nous a plu.
Mais et
est-ce que c'est possible à installer à Nantes? On la connaît,
non,
la réponse.
L'idée était pipée dès le départ. Ce qui est terrible, c'est qu'il était condamné avant que le championnat ne commence. Et finalement, il a été éjecté alors que Nantes était, je crois, 12, 13e, 12e. Voilà,
il
après
a appris
4
aussi,
matchs en victoire.
Il le savait. l'OM, il a appris douloureusement qu'un entraîneur en Ligue 1, il fait quasiment tout sauf de coacher simplement en fonction de l'intérêt de l'équipe et du jeu. Il a
gérer,
toutes les coulisses, les coulisses à gérer, sa direction,
les égos
des
joueurs, le vestiaire.
Je parlais d'un contexte tout à l'heure,
c'est ça, un contexte compliqué.
Les mots sont importants et il ne faut pas confondre un projet de jeu avec un projet de club. Et ce n'est pas parce qu'on a un projet de jeu qu'on peut, malheureusement, lorsqu'il n'y a pas de projet de club, appliquer le premier.
Et j'ai envie qu'on reste là-dessus. Moi.
Oui, voilà. Ben c'est exactement. Et j'ai envie qu'on applaudisse.
Je vais pas mettre les rires à B Productions, je vais mettre le générique final. On va souhaiter une bonne semaine de vacances pour ceux qui en ont, puisque les vacances arrivent. Et nous, on se retrouve dans 15 jours, les amis, pour un nouveau Sans Contrôle. Bon match au Nantais, à Lorient et face à Metz. Combien de points? Tiens, on va finir avec ça. Combien de points
6.
Sur ces deux matchs? Oh, Pab. L'optimisme de Pab.
Jean-Marcel?
Non, je pronostique pas, moi.
Oh.
Enfin, on va pas
mais comme ça, il pourra faire une démonstration
dis,
la prochaine fois.
Moi, je me dis
dire,
4,
je
4 c'est possible. Un nul à Lorient.
Oui, bah, c'est évidemment possible.
Allez, je vais faire comme David Philippot, 5.
Allez, salut les amis, ciao.
Sans Contrôle, le podcast 100% digital.
Proposé par les rédactions de Ouest France, Presse Océan et It West.